Alors, on n'est pas une Landsgemeinde, mais je vais quand même vous proposer un vote à main levée. Vous regardez pas ce que fait votre voisin. Hein. Puis même les femmes ont le droit de vote, on est une Landsgemeinde super open. La question, elle est assez facile. Est-ce que l'on peut transmettre la foi? Ceux qui votent oui, vous pouvez le faire maintenant. Oh, une large majorité. Qui seront les courageux qui vont répondre non? Magnifique. Alors, c'est une large majorité qui vote oui et une toute petite minorité qui vote non. Très intéressant. Parce que je vais vous faire la réponse du parfait normand. Les deux, bien au contraire, exactement. Et pourtant, ce n'est pas seulement une réponse de normand, mais c'est une réponse biblique. Et comme ça, ça vous fait réfléchir un peu que la Bible, ce n'est pas toujours oui, ce n'est pas toujours non, mais c'est des fois tout petit peu plus compliqué. Écoutez ce texte dans le Deutéronome. « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ces commandements, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, ces commandements, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de ta porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Amen. » Donc là, réponse assez claire. C'est la grande majorité qui va avec ce texte. C'est oui, on peut transmettre la foi à ses enfants de différentes manières, aussi en portant des signes de notre foi sur notre corps et sur nos maisons, nos habitations. Et puis un autre texte, dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, qui nous dit « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les fassions. » Alors là, réponse de la petite minorité vaillante qui a voté à main levée et qui se prononce plutôt pour le non. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu et c'est Dieu qui provoque en nous la foi, qui nous donne la foi. Et puis je crois que cette oscillation entre le oui et le non, c'est effectivement ce qu'on vit dans nos vies de tous les jours, hein. Dans nos vies de chrétiennes et de chrétiens et de familles chrétiennes, familles de chrétiens. C'est une part de transmission et une part de mystère. Pourquoi la foi dans certaines vies s'enracine et fleurit et pourquoi elle ne s'enrichit pas de cette présence dans d'autres vies? Pourquoi la foi s'épanouit alors que certaines fois elle s'arrête à des stades précoces? Ce sont des questions profondes, parfois douloureuses, et ça ne nous laisse pas indifférents. Loin s'en faut. J'ai plusieurs discussions avec plusieurs d'entre vous sur ces questions-là. Ça remue les tripes, ça va loin. Il y a beaucoup d'émotions à ce niveau-là. Et même parfois, le rôle des parents que nous sommes, des grands-parents, des oncles, des tantes, peut même entraîner une certaine culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Ou qu'est-ce que je n'ai pas assez fait bien? En effet, suffisamment au niveau de la transmission de la foi. On me répète ça tous les dimanches, surtout ceux de rentrée, et puis finalement, ça n'a pas marché. Ou alors, tout ce que j'ai investi, et puis ça a donné qu'une toute petite souris. Une petite souris de la foi. Tout ça pour ça. Ou bien alors, moi, je suis quand même super engagé, je fais la louange tous les dimanches, je prêche assez souvent, et puis mes enfants ne suivent pas. Qu'en comprendre avec tout ça? Puis d'un autre côté, on peut aussi se trouver plus du côté du texte d'Éphésiens, une réaction du type « De toute manière, moi, j'ai un peu abandonné le truc parce qu'on n'y peut rien, ça vient de Dieu, et puis Dieu s'en occupe, et puis il va bien s'en occuper, parce que je lui fais confiance, mais moi, je ne peux rien y faire finalement. » manière de se positionner qui peut peut-être provoquer un certain soulagement, de me dire, ben voilà, ma responsabilité de parent, elle n'est pas si importante que ça, et qui coïncide souvent avec une forme de fatalisme, voire peut-être même de démission. Alors, ce n'est pas le but, hein, vous pensez bien. Comment faire et comment se positionner alors ? Première chose, c'est que j'y vais avec beaucoup d'humilité, sachant que, comme je l'ai dit, cette transmission de la foi dans les familles, c'est un sujet sensible. Et en plus, si vous voulez un sujet hyper sensible, si vous voulez vraiment vous friter, par exemple, avec vos frères et sœurs, vous parlez de quoi ? De l'éducation des enfants, exactement. Ça, si vous voulez réussir, c'est super bien. Alors moi, je me lance là de parler un peu d'éducation des enfants, de transmission de la foi. Alors je suis un peu kamikaze, je sais, mais prenez ce que je vous dis comme un échange d'idées. Et puis pour moi, je crois qu'en tant que pasteur, c'est aussi ce qui ressort de ma responsabilité d'oser aborder ces sujets-là et puis de les aborder avec qui je suis. Alors si je vais donner une seule chose, transmettre la foi pour moi, ça rejoint un peu ce que Marie dit, c'est assumer devant nos enfants et avec eux notre identité de disciple du Christ. Et pour moi, assumer, ça veut dire tout simplement être vrai. C'est être vrai avec mes convictions, c'est-à-dire que je ne vais pas me cacher avec mes convictions, je ne vais pas les enfuir et puis me fuir chaque fois très loin quand on me pose une question délicate. Mais c'est aussi être vrai avec mes doutes, avec mes questions. Assumer, pour moi, c'est simplement dire que la foi en Jésus-Christ fait partie de ma vie, de notre vie de famille. Et là, en tant que parent, j'ai le droit de décider que la foi fait partie de la vie de famille. Ensuite, on pourra se positionner, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Mais là, j'ai une responsabilité d'assumer qui je suis de manière plus large, pas simplement pour ma vie, mais pour la vie de ma famille. Et cela doit s'intégrer, évidemment, dans des gestes. On l'a vu dans ce texte du Deutéronome, je suis impressionné. Mettre sur le bras et le front notre appartenance à Dieu. C'est fort, hein ? Et sur le montant de nos portes. Alors, je me réjouis d'aller faire des visites ces prochaines semaines dans les foyers de la Frate, voir si vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Et ce que la Bible dit, surtout, hein ? Pas seulement moi. Ça doit se faire par des mots, des prises de décision qui sont parfois fortes, des prises de position, je crois aussi. Et puis, j'ai toujours le souvenir d'une intervenante qui était venue une fois à la Ligue, elle avait quoi, une quarantaine d'années, 45 ans. Et puis, elle nous avait parlé d'un sujet complètement autre que la lecture de la Bible, puisqu'elle nous avait parlé de l'importance de l'apparence et du vêtement que l'on portait par rapport au message qu'on transmettait. Donc, j'avais trouvé ça plus ou moins intéressant. Du coup, j'avais changé ma manière de m'habiller, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça, ce n'était pas l'essentiel, parce que ce que j'ai retenu de tout son enseignement, c'est qu'à la fin, elle nous a dit, ben vous savez, moi, j'ai commencé à lire et à méditer la Bible parce que chaque fois que j'allais chez ma grand-maman, elle ne m'a jamais donné aucun enseignement là-dessus, mais tous les matins, quand je me réveillais, elle était assise sur le même canapé et elle lisait sa Bible. Cette grand-maman ne lui a jamais rien dit au niveau de « ma chère, tu dois lire ta Bible », mais elle, je ne sais pas, 35 ou 40 ans plus tard, elle pouvait dire qu'elle avait appris cette manière de faire simplement en se réveillant chaque matin pendant les vacances chez sa grand-maman et en la voyant lire sa Bible. Et puis c'était bien mieux quand on avait un livre, comme ça on ne pouvait pas confondre avec le téléphone. Assumer, ça veut dire vraiment être vrai. Donc assumer, puis la suite finalement, c'est aussi d'avoir une certaine manière de le vivre. Cette manière d'assumer qui on est en tant que disciple du Christ. Puis ma théorie, qui vaut ce qu'elle vaut, elle est assez simple. C'est que notre rôle est de faire envie ou, pris négativement, d'éviter de dégoûter nos enfants. Faire envie, c'est être témoin puis savoir partager les belles choses que l'on vit avec Dieu, dans ma vie personnelle ou dans notre vie familiale. Et éviter de dégoûter, pour moi, c'est d'éviter d'être des boulets qui faisons obstacle à l'action du Saint-Esprit. C'est aussi, d'après moi, notre rôle en tant qu'Église. Et là, j'ai mis le t-shirt des Crazy Games. J'ai vu qu'on place un peu ce culte sous le signe des Crazy Games parce qu'on est assez convaincus de ce qui s'y vit. Parce qu'il y a une ambiance assez unique et puis beaucoup de témoignages bienfaisants. Et puis, j'ai essayé de discerner quelques caractéristiques qui, je trouve, font le sel de cette semaine et puis qui peuvent nous servir, des pistes très pratiques que je vous laisse, que je me laisse pour vivre un peu plus longtemps que simplement cette semaine en août, cette ambiance particulière dans nos familles maintenant que nous sommes tous réunis de nouveau. Alors, ces quelques caractéristiques, si j'étais économiste, je dirais que c'est des facteurs clés de succès. J'évite d'employer ce terme parce que c'est pas ça, mais c'est peut-être des pratiques qui peuvent nous interpeller, nous intéresser pour vivre cette transmission de la foi au mieux dans nos familles. Alors, la première caractéristique que j'ai trouvée de cette semaine des Crazy Games, c'est que c'est une semaine qui est placée sous le signe du don. Et notamment, la plupart des personnes qui viennent là donnent leur don le plus précieux, leur bien le plus précieux. Vous savez ce que c'est le bien le plus précieux au 21e siècle? Ah ben il y a tout le monde qui le sait, c'est magnifique. Là il y a unanimité. C'est le temps. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que durant cette semaine, particulièrement, il y a une forme de suspension du temps que je peine à m'expliquer. Tout le monde a le temps d'avoir une conversation, y compris les bénévoles. Les enfants ont l'impression d'avoir le temps d'être qui ils sont. Petits et grands, nous avons l'impression d'avoir une autre manière de vivre qui nous est présentée, animée finalement d'un autre esprit. On peut prendre le temps de se parler, de se donner des nouvelles, de s'intéresser à l'autre, de parler de soi, de ses besoins. Parce que tous et toutes, nous avons décidé de consacrer du temps à cette semaine. Et cette consécration, elle se fait dans une certaine forme de gratuité, sans calcul et sans arrière-pensée. Et ça, je trouve extraordinaire. Et ce que je trouve plus extraordinaire encore, c'est que les enfants le remarquent. Cette attention que beaucoup de coachs et d'être coachs qui sont notamment là ce matin, qui décident de consacrer une semaine leur temps. Puis en plus, là, c'est un bon exemple parce qu'il y en a quand même deux parmi ces coachs et coachs qui ont décidé de prendre un congé jeunesse auprès de leur employeur, c'est-à-dire de prendre une semaine de congé non payé pour faire ces Crazy Games. Eh bien, ce temps, ce don qui est là, eh bien, les enfants le remarquent dans cette volonté de les faire grandir dans le sport ou dans la foi, dans une recherche du bien-être, de les entourer finalement d'amour. Quand il y a cette forme de gratuité, il y a véritablement une forme de liberté. Comme si cette pression ressentie et vécue dans notre vie de tous les jours n'y était plus. Et vous savez quoi? Ça fait du bien d'être dans cette logique du don de soi et du don de notre bien le plus précieux, notre temps. Alors je vous laisse tirer les conclusions que vous avez déjà tirées pour nos vies de famille. Est-ce que j'arrive à donner du temps à mes enfants dans ma vie de tous les jours? Le deuxième facteur clé de succès ou caractéristique, c'est que nous mettons beaucoup d'accent sur l'intercession. Intercéder en faveur d'un but que les enfants puissent passer une belle semaine et une semaine fructueuse, c'est-à-dire qui porte du fruit. Et au Crazy Games, nous avons la chance d'avoir des dizaines de personnes, et il y en a là ce matin, qui se sont lancées depuis plusieurs mois avant la manifestation dans cette discipline de prière pour cette semaine et pour les enfants qui seront présents. Et durant la semaine, plusieurs équipes se relayent aussi pour chaque matin se retrouver et prier. Et il y a même un responsable d'intercession. Et ça, au début, je dois bien vous avouer, je fais mon mea culpa, je me suis dit, bon, ben, le responsable d'intercession, si on le trouve, c'est cool, si on ne le trouve pas, tant pis. Ce qui compte, c'est qu'on puisse organiser des sports, c'est qu'on puisse organiser des arbitres. Et au fur et à mesure, j'ai changé mon opinion et je me suis dit, ce responsable-là, il est tout aussi important, même si son rôle ne sera pas aussi visible que le responsable des sports et des matinées. Et ça change pas mal de choses dans notre manière de concevoir notre organisation. C'est que ce poste-là, il parle et il agit dans les sphères invisibles. Il agit dans les sphères qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont bel et bien réelles. Et de manière assez logique, on se dit, bon, ben, ça, c'est pas le plus important parce qu'on le voit pas. On est toujours assez pragmatique. Hein. Et pourtant, je pense que c'est un des facteurs essentiels. Et là aussi, c'est un encouragement, vous voyez le lien que je fais avec nos vies de famille. Intercédons pour notre vie de foi à l'intérieur de nos familles. Ça ne va pas venir comme ça en claquant des doigts, mais ça va aussi venir, je pense, dans une forme de mobilisation dans la prière. Intercédons. Troisième point, c'est qu'au Crazy Games, on essaye de cultiver la reconnaissance. On est reconnaissant pour tout ce qu'on fait, et puis je vois Regula qui rigole, elle est même reconnaissante de nettoyer les toilettes. Donc c'est dire que cette reconnaissance, on essaye vraiment de voir l'action bonne de Dieu dans nos vies. Non, ce que l'on vit de manière positive, on ne le considère pas comme normal. On le considère comme étant là aussi un don de Dieu qui nous aide à vivre notre vie au mieux. Cultiver la reconnaissance plutôt que la critique envers Dieu, envers ses frères et sœurs dans la foi, envers les enfants. On aurait toutes les raisons du monde de se dire, ben voilà, ce bénévole, il n'a pas super bien fait, il n'a pas vraiment fait comme il faut, il ne m'a pas fait comme je m'attendais, je me serais attendu à quelque chose de mieux. Puis on se met un peu dans ce mode-là, et puis finalement, ce n'est pas hyper constructif. De cultiver la reconnaissance avec le nombre de personnes qui sont impliquées, je pense que ça nous aide à nous élever, et finalement, à reconnaître qui est Dieu pour nous. Parce que c'est aussi ce que nous sommes appelés à vivre envers Dieu. Et finalement, au Crazy Games, on essaye de rechercher l'unité. C'est la 3e ou 4e fois qu'on peut vraiment faire une semaine organisée par les églises catholiques, réformées et évangéliques de la côte. Tout le monde participe à ce comité. Et je crois que ça se sent qu'on est tous derrière le même projet de transmettre la foi à ses enfants. On fait cet effort aussi à des différentes églises et aussi au niveau des différentes sensibilités spirituelles. Parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, ce qu'on doit transmettre ou pas aux enfants, comment on doit le transmettre et tout et tout. Et pourtant, le but, c'est de le faire tous ensemble. Et je crois que là aussi, il en va de même au sein de nos familles et au sein de notre couple. Je suis bien conscient de l'enjeu de cette proposition. C'est une visée de se dire qu'on recherche l'unité dans notre couple ou dans notre famille à ce niveau-là. Même lorsqu'on est dans un couple que l'on dit mixte ou une personne à la fois, une personne n'a pas la foi. Et je crois que c'est une nécessité, et j'insiste là-dessus, de discuter de cela simplement, même au sein des couples où les deux, nous avons une foi en Jésus-Christ. Comment envisageons-nous la transmission de la foi à nos enfants? Comment envisageons-nous, quand on est grands-parents, la transmission de la foi à nos petits-enfants? Est-ce que, puis là je ne vous demande pas de répondre, mais je vous laisse la question, est-ce que pour les couples qui sont là ce matin, est-ce que ça a déjà été un sujet de conversation? Vous dire, si on le prend le soir, une fois, avant de s'endormir, plutôt que de planifier la semaine, se dire, est-ce qu'on a déjà abordé ce sujet, qu'on a déjà finalement problématisé cette question, comment est-ce que dans ma famille, je m'occupe de cette question-là, de transmettre la foi? Alors voilà ces 4 éléments que je nous laisse, parce que je les prends aussi en premier lieu pour moi. Et puis, vous dire simplement que dans cet effort, ben on n'est pas seul. On chante avec force et vigueur la présence de Dieu dans nos vies. Souvent, je pense qu'on se sent un peu désemparé par rapport à des questions qui nous dépassent, des questions peut-être qui nous font souffrir. Mais là, j'ai envie de nous rappeler qu'on n'est pas seul dans cet effort, dans cette envie. Dimanche prochain, on va méditer toujours cette question de la transmission de la foi, puis je vais prendre l'angle de l'Église. Quel est le rôle de l'Église dans la transmission de la foi? Mais surtout, on peut lever les yeux vers le Père et c'est là qu'on trouve les ressources nécessaires pour vivre notre part à chacune et chacun de ministère. Je nous invite aussi à placer le temps de Sainte-Seine, que nous allons vivre dans quelques minutes, sous ce signe-là de manière particulière ce matin. De demander à Dieu ce matin de manière particulière sa présence pour ce ministère qu'il nous a confié de transmetteur de foi. Parce que sans lui, on aura un peu de la peine à y arriver. Alors je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu comptes sur nous et merci parce que tu es notre exemple. Merci parce que nous pouvons faire notre part et nous pouvons te dire que nous nous attendons à toi pour la part qui nous échappe. Nous venons aussi devant toi avec toutes les questions qui certainement se lèvent, qui certainement sont présentes dans nos cœurs, dans nos esprits, pour simplement te les apporter et les apporter aussi à cette table qui est la tienne, Seigneur. Amen.